Le dos du désert est le fruit d'une rencontre fortuite entre vous qui êtes chorégraphe habitant à Madrid et des comédiennes genevoises. Comment est née cette idée commune ?
Bonjour. Cette idée est née parce qu'on s'est rencontrés l'année passée avec les comédiennes de la compagnie RDH. Et moi, j'avais cette création en tête. Et la compagnie RDH m'a proposé aussi qu'on travaille ensemble. Et moi, je trouvais très intéressant le travail qu'elle faisait ensemble. Déjà, elle avait fait l'année passée la pièce Elle, aussi dans le théâtre de Lucine, avec un bon succès. Et on s'est dit que c'était intéressant qu'on pouvait travailler ensemble parce qu'on était un peu dans une recherche commune.
Et cette création nous introduit dans le monde de quatre femmes qui vivent chacune leur désert intérieur, et c'est une solitude qui est prête à être peuplée. Tout d'abord, cette solitude, est-ce qu'il s'agit de la solitude des personnages ou d'une solitude plus générale ?
Moi, je parle plutôt d'une solitude que ça pourrait être des hommes, des femmes, de n'importe quel endroit du monde, quelle culture. C'est pas seulement la solitude quand on est seul, qu'on se sent seul, mais la solitude qu'on porte avec nous toute la vie, même si on est au milieu de la foule, non ? C'est ce sentiment intime, plutôt.
Mais dans cette distribution, il n'y a pas d'hommes.
Oui, c'est vrai.
Est-ce que c'est un monde, c'est un problème qui est propre aux femmes ?
Non, pas du tout. Je crois que je m'avais dit au début qu'il pourrait y avoir des hommes, non ? Mais le problème, c'était que si on mêlait des hommes et des femmes, j'avais le risque d'aller plus dans le sens plus de la relation entre hommes et femmes que de parler de ce que je voulais parler, de la solitude intime, non ? C'était pour ça que j'ai pas mis des hommes, mais c'est pas une question que je veux parler que de la solitude des femmes et que c'est les femmes qui ont la solitude, c'est pas ça.
C'est-à-dire que la solitude de ces femmes n'est pas due aux hommes ?
Non, pas du tout.
Mais la vie des quatre femmes que l'on voit dans cette pièce semble comporter plus de peine, plus d'attente. Est-ce qu'il y a quand même un espoir ?
Évidemment, moi je la ressens pas comme dramatique, non ? Après, c'est le public à dire, non ? Mais c'est une solitude de sentiments, mais pas dans le drame, non ?
Mais cette solitude n'a tant qu'à être peuplée, comme vous l'avez expliqué. Oui. Ce sont toutes des vies différentes, des personnages qui oui. attendent de combler cette solitude.
Oui. Il y a aussi seulement, pas seulement ça, il y a l'idée que dans le fond, on pense des fois qu'on est unique, qu'on a des sentiments uniques et qu'on a des drames uniques, nous. Mais dans le fond, tous, dans notre vie, on passe par les mêmes endroits à peu près. Pendant toute une vie, on va ressentir la douleur, la perte de quelqu'un, la joie, plein de choses que dans le fond, tous, on est un peu égal. On se croit qu'on est très individuel, mais dans le fond, on a les mêmes sentiments, soit à un moment ou à un autre de la vie. Non ? Il y a aussi, c'est pour ça que dans la pièce, il y a un moment où on tourne, pour l'idée qu'on tourne des fois, on rentre dedans, mais on tourne aussi dans la vie. Et des fois, c'est toi, des fois, c'est moi qui est dans un endroit, non ?
Mais la plupart du temps, les quatre interprètes sont situées, sont éloignées des hommes. Elles sont peut-être aux quatre coins de la pièce, si on peut le prendre de cette manière. Est-ce que c'est aussi pour montrer cette solitude, pour montrer leur isolement ?
Oui, c'est parce que oui, c'est leur isolement que ça peut être élu. C'est pas un isolement qu'elles sont là parce qu'elles peuvent pas être avec des hommes ou elles peuvent pas être avec d'autres femmes. C'est parce que aussi la solitude, c'est une chose que des fois, quand c'est élu, c'est merveilleuse. Mais aussi parce que comme ça, on montre des différentes manières de sentir la solitude. Chaque personne réagit différemment. Et après, il y a ces moments intimes que chaque personne peut avoir dans ce moment à la maison ou chez celle différente. Non ?
Et comment vous avez ressenti ce sentiment pour avoir envie de l'exprimer sur une scène ?
Moi, la solitude.
Ou la solitude des personnes dans la société.
Moi, je trouve que plus on avance culturellement, plus isolé on est aussi. Et parce qu'il y a moins d'intérêt par rapport à l'autre. On est plus dans l'idée de moi, je dois réussir dans le travail, dans toutes les choses. Alors, on s'approche moins des autres, on a moins le temps de s'approcher déjà. Et on s'approche moins des autres, des voisins, des amis. On a tout un agenda quand on veut voir quelqu'un pour prendre un café, on se prend pas le temps, et ça crée des moments d'isolement, parce que tout le monde est dans son propre chemin, et ça nous isole, ça.
Et est-ce que c'est ce qui conduit au titre, le dos du désert, le désert dans lequel on vivrait?
Oui, mais le titre, il est parti parce que, bon, je l'ai pris parce que c'est un poème berbère que j'ai lu une fois. Les berbères, ils ont une culture assez poétique déjà, eux. Et avec les femmes, ils sont quelque chose de très spécial. Et il y avait un poème qui disait les femmes sont le dos du désert parce qu'elles supportent le poids. Elles sont là quand on revient, elles font le travail, des fois dur et rude. Et c'est elles qui portent le poids. Alors je trouvais cette image de dos du désert très beau, parce que le désert, déjà en français, ça veut dire aussi solitude. Et le dos, c'est comme un pilier, c'est un endroit où tu t'appuies, non?
Ce serait la position, le rôle de la femme de supporter les problèmes qui sont créés et tout le poids.
Ouais, bon, c'est ça justement que j'aimerais dire, que nous on boit depuis ici, la Suisse, l'Europe, le monde occidental, on boit cette chose de la femme et l'homme d'un point de vue occidental. Mais si on regarde ça avec une vision plus grande, dans la plupart du monde, la femme, elle est encore dans un niveau différent à l'homme. Elle supporte beaucoup le poids, elle n'est pas au même niveau. C'est parce que nous, on a cette vision d'égalité ici, on a conquéri des choses, c'est ça, on est dans une autre chose différente. Mais il y a beaucoup de gens encore, des femmes dans le monde qui ont ce poids et qui sont silencieuses, mais que ça existe.
Mais le fait que ceci était mis en évidence dans un poème berbère, est-ce que ça signifie que cette culture aurait une plus grande conscience du rôle de la femme et de ce qu'elle supporte?
En tout cas, par ce que je connais pas autant, mais par ce que je connais de ces régions désertiques, c'est une culture, la berbère, qui fait beaucoup d'attention à la femme, et spécialement attention à la femme.
Donc ce désert que, pour vous citer, que toute femme à n'importe quel endroit du monde ressent quelquefois dans son cœur, il est universel?
Oui,
ou
c'est...
propre spécifiquement à une culture non occidentale?
Oui, je crois que dans tout le monde, ça, c'est la même chose. Mais je pense que dans des endroits où tu vois les étoiles tous les jours, où tu ressens la terre avec tes pieds, où tu vois les couchers de soleil et les fleurs, je sais pas, c'est différent, soit femme, soit homme. Mais il y a cette chose féminine qui peut ressortir plus quand tu es plus proche de la terre, je crois.
Et vous écriviez, la vie quotidienne arrache souvent la femme de son principe physique et émotionnel, et elle l'écarte de son vrai pouvoir. Quel est donc son vrai pouvoir?
Bon, moi je dis des fois que le vrai pouvoir de la femme, c'est le silence. Mais c'est un peu dangereux de dire ça, parce que on peut le prendre comme si la femme devait se taire, et c'est pas ça du tout, non? Mais je crois que la femme, déjà, en féminin, on a un pouvoir dedans, parce que déjà on peut créer la vie, et c'est pas qu'on est meilleur ni pire que les hommes, c'est ça justement que je pense qu'on ne doit pas entrer dans cette discussion. Mais il y a dans le silence de la femme, il y a déjà un pouvoir incroyable. Il y a toute la lune dedans elle, non? Comme l'homme serait le soleil.
Mais cette description de la situation féminine, est-ce qu'elle relève plus d'un regret, de la perte de féminité, que de féminisme tel qu'on l'entend habituellement?
Parce que moi, je trouve que la féminité, c'est une chose merveilleuse. Le féminin, il est dedans la femme, mais il est aussi dedans l'homme. On a les deux, le masculin et le féminin dans les deux. Mais le féminisme, c'est un courant qui a surgi dans un moment historique que c'était nécessaire pour arriver à vaincre des choses qu'on voulait avoir. Mais maintenant, moi personnellement, je trouve que c'est plus intéressant d'être fier de la féminité qu'on a et de pas vouloir nécessairement être égal à l'homme, ni l'homme égal à la femme, parce qu'on va rester toujours différent. Et c'est ça qui est beau déjà.
Mais vous écriviez aussi notre société occidentale, dans notre société occidentale, la femme, tout en réussissant à atteindre dans le monde professionnel et légal les mêmes droits que l'homme, a fini par s'identifier au message masculin de succès, d'aspect physique, et que cela l'éloigne de son essence féminine.
Oui, c'est justement ça que pendant ce siècle passé, le 20e siècle, des fois on a voulu se dire les femmes, bon, c'est vaincre. C'est pas le mot français, mais réussir, c'est arriver à pouvoir travailler, à côté avoir des enfants, mais aussi réussir dans le travail professionnellement, avoir une vie dans tous les sens. Et des fois, on oublie que être seulement à la maison, c'est aussi beau, mais que c'est une chose qu'on peut le faire sans se sentir mal. Je ne veux pas dire par là que c'est ça qu'elles doivent faire les femmes. Évidemment, moi aussi, je suis femme et je veux vaincre, je veux réussir dans le monde professionnel, je veux faire toutes ces choses.
Mais pas en adoptant l'attitude d'un homme.
Oui, c'est ça, et pas nécessairement en ayant cette attitude masculine de « allons-y, allons-y », non ? Que je ne veux pas que les hommes se fâchent non plus, non ? C'est pas que c'est une attitude mauvaise, mais moi je trouve qu'on est différent et qu'il y a deux manières de faire et que c'est ça qui est merveilleux.
Et comment tu observes l'évolution de cette attitude féminine qui se masculinise ?
Pardon ?
Comment tu ressens l'évolution de cette attitude féminine qui se masculinise, qui devient de plus en plus homme dans son comportement ?
Oui, maintenant je crois que ça a arrêté un peu, non ? Je crois que c'était plus dans les années 70, 60, comme ça, non ? Quand on venait de vaincre des choses. Mais il y avait toute cette chose de la femme, elle doit avoir le corps comme ça, et du coup, il y avait toutes les femmes qui se faisaient opérer, ou des choses comme ça, non ? Et maintenant, je crois qu'on arrive à un moment où on se dit, bon, je suis comme ça, et je me sens bien comme ça. Les hommes aussi, ils se mettent des crèmes et ils se sentent pas mal de faire ça. Et ils peuvent le dire sans se sentir gênés. Ou dire, moi, je m'épile les sommes, et c'est pas grave. Alors ça, du coup, c'est bien, ça.
Vous voulez dire que pendant que la femme adopte un comportement quasi masculin, les hommes commencent aussi à adopter un comportement un peu plus féminin ?
Oui, parce que je crois que c'est parce qu'on arrive à pas devoir cacher des choses que sont pas à cacher, non ? Avant, on se disait, non, je suis homme. On se met pas de crème, mais pourquoi pas si tu veux te teindre les cheveux ou n'importe quoi, pourquoi pas, non, tu restes pas moins homme comme ça, ou tu restes pas moins femme parce que tu adoptes, c'est surtout de rester tranquille quelque part, non.
Vous notiez aussi que nous nous sentons protégés parce que nos besoins élémentaires sont couverts, mais cette société ne peut pas couvrir nos besoins émotionnels. Et pourtant, d'après l'évolution, si les hommes sont un peu plus femmes et les femmes un peu plus hommes, il devrait y avoir une meilleure compréhension.
Je dis que on peut pas atteindre comment ce serait le mot en français, le truc émotionnel. Parce que on a en Occident, là, on a toutes les choses matérielles qu'on veut. Et on est assez accommodé, on est bien. Mais c'est justement ça, des fois, on ne peut pas acheter l'amour. On ne peut pas acheter le coucher du soleil. Tu as le temps de le voir, ou tu prends le temps de le voir, ou tu ne le vois pas. Mais c'est justement ça, non ? On est accommodé, mais des fois, on perd un peu d'autres choses que sans la vie. Quand on va partir, on ne va pas emmener nos choses matérielles. On va emmener seulement les choses qu'on a vécues. Nos souvenirs, les choses qu'on a vécues avec d'autres gens. Mais pas les choses matérielles. C'est ça qui est dommage des fois, non ? Qu'on oublie.
C'est ce que vous avez voulu nous faire passer comme message durant ce spectacle ?
Oui, aussi, il y a une partie de ça, non ? Je ne sais pas si ça se voit ou non, mais au moins, moi, je parle de ce sentiment-là, non ? Que c'est plus important ce que tu vis avec les autres, ce que tu ressens, tes souvenirs, que ce que tu as ou ce que tu peux conquérir matériellement, non ?
Et vous avez écrit les textes, vous êtes basé également sur des auteurs actuels ?
Je me base sur plusieurs auteurs comme Catherine Mansfield, Eduardo Galeano et Jean Rhys. Et après, on a travaillé un peu ce texte. Après, on a improvisé aussi de la part des comédiennes. Moi, j'ai ajouté aussi des petits morceaux. Mais surtout, on est parti de ces trois auteurs.
Mais le déroulement des quatre personnages montre aussi... Enfin, c'est parfois improvisé. Les danseuses, enfin, est-ce qu'on peut parler de danse? Est-ce qu'on parle de théâtre? Est-ce qu'on parle de mouvement?
Mm-hmm. Bon, on a parti évidemment des improvisations que moi j'ai proposées pour les emmener dans un chemin. Et après, dans la pièce, il y a presque rien qui est improvisé parce que il y a beaucoup de précisions qui se passent dedans, non? Alors, si on improvise, ça marche pas.
C'est là que vous avez utilisé tantôt les textes, tantôt les gestes, mm-hmm, pour faire ressortir des émotions.
Oui. Parce que moi, j'aime bien travailler avec les comédiennes, parce que les comédiens en général, parce que le mouvement, ça ajoute une chose des fois que les paroles ils peuvent pas dire. Et des fois, avec un geste ou avec un mouvement, tu peux dire beaucoup plus de choses et des choses assez ouvertes que le texte des fois il enferme plus parce que c'est très concret. Mais dans le geste ou dans le mouvement, c'est plus ouvert. Et après, le travail avec les comédiens, c'est intéressant parce que moi, maintenant, ça m'intéresse beaucoup moins la technique, mais beaucoup plus le mouvement personnalisé, disons, que ajoute une émotion.
Et l'irruption de la vidéo pour raconter une partie de l'histoire, c'est quelque chose qui ne pouvait pas être traduit par les gestes.
Oui, c'est ça aussi que... Bon, parce que déjà, nous, on est dans un monde assez visuel. Cinéma, vidéo, tout ça, non? Et des fois, il y a des choses qu'en les racontant de cette manière, on est dans cette idée collective, non? Dans ce sentiment collectif, qu'on comprend des choses différemment si ça vient d'une vidéo que si ça vient d'un geste ou d'une parole sur le plateau. Pour moi, ça donnait des choses intéressantes.
Vous avez dit qu'en ces temps où l'on parle tant de globalisation, nous avons tous l'intuition que cette culture globale surpasse les conditionnements de l'individu. Et d'ailleurs, la diversité des langues implique différentes manières de percevoir le monde. Comment s'est passée cette collaboration entre vos origines hispaniques et qui perçoivent différemment, et puis la troupe genevoise?
Bon, c'était assez intéressant parce que c'est vrai qu'on n'est pas si différents dans le général, mais après, par exemple, au début du travail, je voyais une différence dans cette chose de se toucher, de faire sortir les émotions. Ça a pris un peu plus de temps que si ce serait avec des comédiens espagnols, parce que ici, on se touche moins déjà, le corps, on est très très attentif à l'autre.
La libération est beaucoup plus lente.
Mais ça va plus lent. Si moi je connais quelqu'un à Madrid, ou je travaille avec un comédien, il va, le premier jour, il commence à crier, ou je sais pas, il peut se mettre à poil sans se sentir gêné. C'est pas que je fais ça tout le temps, mais ici, ça prend un temps de se connaître, d'aller doucement, et c'est différent. C'est ça que j'ai ressenti, la culture différente, non? Après, évidemment, on arrive à des choses super belles aussi, et super touchantes, mais on passe par des endroits différents. Et aussi la manière où j'ai dû comme ouvrir les chemins, c'était différent. Aussi avec la langue, moi je parle français, mais des fois les petites couleurs que je voulais ajouter, c'était pas la même chose que je le disais en espagnol.
Et la compagnie RDH, donc c'est une coproduction que vous avez réalisée, les textes ont été choisis ensemble, vous avez...
En fait, moi j'ai fait toute la partie création, c'est moi qui ai choisi la pièce, comment je voulais faire la pièce. C'est une coproduction au niveau de... C'est à travers RDH qu'on a reçu les subventions. Et que c'est une collaboration, évidemment, entre la compagnie et moi.
Vous dites aussi que vous ne croyez pas au théâtre de divertissement. Qu'est-ce que vous attendez alors du spectateur qui vient?
Bon, ce qu'on espère toujours, c'est qu'au moins ils se sont touchés. Moi, quand je vais voir un spectacle, la chose qui m'intéresse plus, c'est pas de voir si c'est très bien fait ou comment, mais si ça me touche. Et moi, ce que j'aimerais, c'est sentir qu'il y a des publics qui est touché, qui sent quelque chose, qui ça le fait penser plus ou moins, mais qu'ils sentent quelque chose, qu'ils se sentent touchés.
Qu'ils se sentent touchés, qu'ils puissent rêver, qu'ils puissent réfléchir.
Oui. Plutôt que, bon, que ça passe un bon moment et après on se dit, bon, c'était correct, mais au moins qu'on se sent touché, même si c'est 2 secondes, pour moi, ce serait réussi.
C'est donc le dos du désert, de Louisa Merino avec la compagnie RDH et qui joue jusqu'au 24 avril au théâtre de l'Usine.